À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. 21 personnes sont décédées au Cameroun après avoir consommé de l'odontol, une boisson locale très alcoolisée et réputée dangereuse. Les autorités des zones concernées ont annoncé l'interdiction de la production et de la commercialisation de ce breuvage produit et vendu généralement dans le circuit informel. L'odontol est produit à base de vin de palme, de sucre et d'une écorce d'arbre. Il est bon marché, attirant les petites bourses qui ne peuvent s'offrir plusieurs bières ou de whisky vendus dans les commerces. Ce n'est pas la première fois que des morts sont enregistrées au Cameroun après la consommation de cette boisson. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a prononcé hier un discours devant le Parlement. Il a déclaré que son avenir politique est réglé par la Constitution. L'opposition rejette ses propos selon lesquels l'accord politique issu du dialogue est la seule feuille de route pour conduire le pays aux élections. La coalition des Congolais pour la transition, par exemple, se veut absolument intransigeante. On écoute son président émérite Damien Kalouira.
Monsieur Kabila a décidé de déclarer une guerre ouverte avec le peuple congolais qui, à plus de 98%, ne jure que par le changement de l'administration de Monsieur Kabila. Dans ce discours, M. Kabila insulte les jeunes Congolais en les qualifiant d'être des jeunes manipulés. Et le peuple ne lui demande qu'une seule chose, rendre sa démission. Et s'il ne veut pas rendre sa démission, la coalition des Congolais pour la transition et toutes les forces alliées avec lesquelles nous sommes en pleine consultation, allons nous donner la mission constitutionnelle en vertu de l'article 64 de la Constitution pour les mettre hors d'état de nuire.
La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme a publié un rapport sur la situation au Burundi dans lequel elle exhorte la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard. Le document fait état de 1000 morts, 8000 détenus, 300 à 800 personnes portées disparues et plus de 300 000 Burundais contraints à l'exil. Reportage à Bujumbura, Christophe Nkuruziza.
La FIDH et son organisation ITK au Burundi sont un peu plus clairs. L'Union africaine et les Nations unies sont appelées urgemment à déployer une mission d'imposition de la paix pour protéger les populations civile et relancer le dialogue politique sous la médiation de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. C'est ce qui est ressorti dans un rapport publié par la FIDH qui parle des crimes qui sont à l'œuvre des forces du régime et du parti CNDD-FDD au pouvoir. Mais le rapport relève également des exactions commises par des groupes armés Forebu, Force républicaine du Burundi, et Red Tabara, la résistance pour un état de droit. Mais pour le parti UIPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, ce rapport vient corroborer leurs analyses qui datent de très longtemps.
Je pense qu'il est grand temps que des preuves contraires soient fournies. Faute de quoi, il est difficilement impensable que des organisations internationales, des experts onusiens soient toujours taxés de menteurs ou de manipulés. Sans être précis quant aux chiffres, nous avons vécu, nous continuons à vivre ces violations massives des droits de l'homme. De toutes les manières, un millier de personnes qui auraient été tuées, ce n'est pas de l'exagération. C'est l'isolement complet du Burundi. À quoi veut-on en arriver ?
Pour le président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, certains signes sont perceptibles à travers le langage utilisé par quelques dirigeants du parti présidentiel, Zenon Manirakiza.
D'ores et déjà que ces chiffres sont avancés, il appartient au gouvernement de prouver le contraire. Un risque de génocide, le gouvernement ne pourrait pas se dédouaner sans preuve contraire pour les cas déjà cités. Mais l'accord d'Arusha avait prévu l'instauration d'un observatoire de lutte et de prévention contre le génocide. Cet observatoire n'a pas été mis en place. Est-ce une omission involontaire ou volontaire?
Le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, n'était pas disponible quand nous avons voulu connaître sa réaction. Mais le porte-parole adjoint du président burundais, Jean-Claude Nzako, affirme que ces organisations sont continuellement manipulées par l'opposition et rien d'étonnant quand tel rapport arrive au moment où la paix est totale sur toute l'étendue de la République du Burundi. Mais ces organisations ne pourront jamais aller à l'encontre de la volonté du peuple, selon toujours le porte-parole adjoint du président burundais. Pour la FIDH, le régime de Bujumbura s'est lancé dans une fuite en avant criminelle pour conserver le pouvoir, selon le président de la FIDH, Dimitris Christopoulos. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Une trentaine de chefs d'État africains sont en conclave aujourd'hui à Marrakech en marge de la COP22 à l'initiative du Maroc qui entend y défendre les intérêts de l'Afrique face au réchauffement, mais aussi réaffirmer sa stratégie d'influence sur le continent. Alors que la 22e conférence sur le climat bat son plein, ce sommet de l'action africaine, selon ses organisateurs, veut donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le réchauffement et la construction d'un modèle de développement durable sur le continent. Pour les pays du Sud, particulièrement exposés au réchauffement, il s'agit désormais de pouvoir bénéficier d'un soutien financier et technique urgent pour renforcer leurs capacités et s'adapter au changement climatique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé un cessez-le-feu à partir de demain, jeudi, au Yémen et un nouveau gouvernement d'union nationale, mais la proposition a aussitôt été rejetée par le gouvernement. Eric Manirakiza.
Les rebelles chiites houthis sont favorables au cessez-le-feu, a déclaré M. Kerry à l'issue d'une brève visite hier à Abu Dhabi. Il a indiqué avoir longuement discuté à Oman avec des négociateurs houthis venus spécialement le voir. Le chef de la diplomatie américaine qui va quitter ses fonctions en janvier prochain a également évoqué la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale à Sanaa avant la fin de l'année. Mais le camp du président Abd Rabo Mansour Hadi, qui ne semble pas avoir été consulté, a vivement réagi. Abdelmalek Al-Mekalfi, ministre des Affaires étrangères, a dit que le gouvernement n'est pas au courant et n'est pas tenu par ses déclarations. Six tentatives de cesser le feu ont déjà échoué au Yémen. La dernière en date le 20 octobre, sous l'impulsion de Washington et de l'ONU, avait volé en éclats dès son entrée en vigueur. Hier mardi, la grande ville Taïs, dans le sud-ouest, a connu de violents combats qui ont fait au moins 39 morts.
Au deuxième jour de sa visite en Grèce, Barack Obama devrait se rendre à l'Acropole aujourd'hui et livrer en forme de testament politique sa vision de la démocratie à l'heure de la montée du populisme à travers le monde. À l'issue de cette visite en Grèce, la première depuis son arrivée au pouvoir il y a 8 ans, M. Obama va effectuer sa 6e visite en Allemagne où il retrouvera Angela Merkel, son partenaire le plus proche tout au long de sa présidence. Il va participer à un mini-sommet avec, outre la chancelière, les chefs de gouvernement britanniques, italiens Theresa May et Matteo Renzi, ainsi que le président François Hollande. À propos de populisme, on écoute l'analyse de la politologue chercheuse à l'IRIS, auteur du livre intitulé « Trump, l'homme du populisme », Maril Cécile Naves.
En tout cas, c'est un signe fort qui est adressé par le président américain à l'Europe, à l'Union européenne. Ça ne suffira sûrement pas, mais l'idée qu'il y ait une continuité du pouvoir et que le message que va porter Obama, c'est que finalement les institutions américaines vont quand même en partie résister au changement de majorité politique, c'est un signe fort et qui peut aussi avoir une influence sur la future administration. Donc je pense qu'il faut le voir comme un message d'optimisme pour l'Europe.
Est-ce que selon vous, le choix de la Grèce et de l'Allemagne en Europe a une signification particulière? Il ne va pas à Varsovie, par exemple?
Moi, je ne sais pas si ces deux pays ont été choisis depuis longtemps ou s'il les a choisis récemment. En fait, il a dit qu'il voulait aller en Grèce parce que c'est le berceau de la démocratie et parce qu'il veut saluer les efforts qui ont été faits par la Grèce sur l'accueil des migrants. Et puis l'Allemagne parce que c'est la grande puissance économique européenne. Certainement que le choix de la Grèce, ça tombe bien par rapport à la question effectivement de l'OTAN, du fait que Trump envisage de sortir de l'OTAN. Et voilà, mais je pense que c'était prévu avant, si je ne me trompe pas, et ce sont deux pays à forte connotation symbolique pour le président Obama, l'un pour des raisons économiques et l'autre pour des raisons plus historiques. Et sur la question des réfugiés, il veut aussi porter un message sur la tolérance, sur l'ouverture et sur les valeurs démocratiques.
Cécile Marie Naves, jointe à Paris. L'équipe de transition de Donald Trump, déjà remaniée vendredi, a enregistré mardi un nouveau départ sur fond de dissension qui menace d'interférer avec le processus de transition. Après Chris Christie, écarté vendredi au profit de Mike Pence pour le poste de président de l'équipe, le modéré Mike Rogers, un temps pressenti pour diriger la CIA, a quitté l'équipe de transition hier. Mike Rogers était chargé des questions de sécurité nationale au sein de la Donald Team. Jean-Roger Billon.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.
Kill beat. Gato.